Voilà, je vous invite à lire avec moi dans votre Bible ou à l'écran le texte de ce matin qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et je vais lire les versets 32 à 38, Matthieu 15, versets 32 à 38 et je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Jésus appela ses disciples et dit « Je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Les disciples lui dirent « Où trouverions-nous dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur dit « Combien de pains avez-vous ?»« 7 » répondirent-ils, « et quelques petits poissons ?» Alors il enjoignit à la foule de s'installer par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Après avoir rendu grâce, il les rompit et se mit à les donner aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous cheminons depuis quelque temps avec différentes questions que Jésus pose dans les évangiles, soit à ses disciples, soit à ses contemporains. Et ce matin, la question qui nous intéresse, Jésus la pose à ses disciples, « Combien de pain avez-vous ?» Voilà une question bien banale. Peut-être vous dites-vous qu'il n'y a pas là de quoi faire tout un fromage, et certainement pas tout un message. Mais comme nous allons le constater, je l'espère, nous allons constater donc que cette question est en réalité beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraît. Et derrière son apparente banalité se cachent des enjeux importants au sujet de notre engagement pour le Seigneur, au sujet de notre service pour le Seigneur. Après cette très courte introduction, je vous propose sans autre de considérer maintenant quelques éléments pour mieux comprendre notre texte. C'est notre deuxième grand point. Et soulignons tout d'abord que la multiplication des pains qui est relatée dans ce passage est en réalité déjà la deuxième que Jésus opère. La première, elle a eu lieu quelque temps auparavant, puisque nous la trouvons rapportée au chapitre 14, nous sommes au chapitre 15. Notons au sujet de la première multiplication des pains que c'est le seul miracle dans les évangiles, je dis bien le seul, à être rapporté dans chacun des évangiles. Une quadruple mention donc, qui doit certainement nous dire que ce miracle a impressionné fortement les disciples, les apôtres. La deuxième multiplication des pains, celle de notre texte, ce matin, elle ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu et puis dans l'évangile de Marc. Alors il faut dire ici que depuis des siècles, beaucoup d'encre a coulé pour dire que ces deux miracles, ces deux multiplications des pains, en réalité, n'étaient qu'un seul et même miracle. Et que les détails qui diffèrent entre les deux récits sont en réalité dus à des traditions orales différentes qui ont fini par laisser à penser qu'il y avait deux multiplications distinctes l'une de l'autre. Je n'entre pas dans les détails, mais je mentionne simplement et rapidement ce que Jésus va dire lui-même quelques versets plus loin et qui pour moi clôt la question puisqu'il il dit qu'il y a bel et bien deux multiplications des pains. Nous trouvons ça au chapitre 16, donc le chapitre suivant, au verset 9 et 10. Alors, je ne le lis pas dans son contexte, mais c'est juste pour qu'on ait bien cette parole du Seigneur. « Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les cinq pains des 5 000 ?» Ça, c'est la première des multiplications. « Et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 ?» C'est le texte de ce matin. « Et le nombre de corbeilles que vous avez emportées. » La deuxième chose que j'aimerais souligner ici pour que nous appréhendions peut-être un peu mieux le texte, c'est que nous sommes vraisemblablement en territoire païen. Jésus, dans les versets qui précèdent notre texte, nous lisons que Jésus s'est rendu dans la région de Tyr et de Sidon. C'est ce que nous lisons au verset 21. C'est une région qui correspond à l'actuel Liban. Et là, Jésus va guérir une femme cananéenne. Ce sont les versets 21 à 28. Puis de là, nous lisons au verset 29 que Jésus a longé les rives de la mer de Galilée. Marc, dans le texte parallèle, précise qu'il a traversé le territoire de la Décapole et qu'il s'est ensuite dirigé vers une montagne où il est monté et où les foules l'ont rejoint et où Jésus va guérir beaucoup de malades. Les versets 29 à 31. Et notre texte commence au verset 32. Nous sommes donc sur la rive est de la mer de Galilée, et comme on peut le voir ici, donc on voit Tyr et Sidon ici, Jésus qui revient vraisemblablement en passant par là, ici c'est le territoire de la Décapole, et il doit être vraisemblablement quelque part par ici, en face de la mer de Galilée. Nous sommes donc bel et bien en territoire païen. Une précision qui est corroborée par ce que nous lisons dans le verset 31, donc le verset qui précède donc notre texte et qui dit ceci, cette foule, la foule qui s'est rassemblée sur la montagne avec Jésus, et la foule s'étonnait de voir les sourds-muets parler, les estropiés redevenir valides, les infirmes marcher, les aveugles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. L'indication que la foule glorifiait le Dieu d'Israël sous-entend très certainement que cette foule n'était pas israélite et que donc nous sommes bel et bien en territoire païen. Alors pourquoi le souligner ? Déjà, et peut-être simplement pour montrer et pour rappeler qu'il y a eu dès le départ de la place pour les païens dans le cœur de Jésus, dans le ministère de Jésus, même s'il s'est bien évidemment principalement adressé aux brebis d'Israël, au peuple d'Israël. Mais nous devons nous rappeler que c'est parce que Dieu a tant aimé le monde, pas juste Israël, mais parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et si ce n'était pas le cas, vous et moi, nous ne serions pas là ce matin. La foule de notre passage pour laquelle Jésus va multiplier la nourriture est donc cette foule païenne qui est avec Jésus depuis 3 jours. Et Jésus, pendant 3 jours, va guérir beaucoup de malades. C'est ce que nous avons lu au verset 31. Et le verset 32, le début de notre texte, le dit explicitement, fait le lien avec cette foule. Jésus appela ses disciples et dit, « Je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. » 3 jours donc que la foule est avec Jésus. 3 jours qui ont dû être certainement extraordinaire, jalonné par tous les miracles que le Seigneur a accomplis pendant ces 3 jours. Les sourds-muets se sont mis à parler, les estropiés sont redevenus valides, les infirmes se sont mis à marcher et les aveugles ont recommencé ou ont commencé à voir. Et cette foule glorifiait le Dieu d'Israël. 3 jours extraordinaires donc. Mais voilà, il faut aussi manger de temps en temps. Sans doute que toutes ces personnes étaient venues avec des provisions au départ. Peut-être que certaines d'entre elles, voyant que ça se prolongeait et ne voulant pas perdre une miette de ce qui était en train de se passer sur cette montagne avec Jésus, peut-être que certains sont retournés dans les villages les plus proches chercher à manger, chercher des provisions, pendant que les autres restaient au contact de Jésus. Nous ne savons pas exactement comment les choses se sont passées, mais ce que nous savons, c'est qu'après 3 jours, la foule est là et elle a faim. Et Jésus le sait. « Je suis ému par cette foule, dit Jésus. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. » Une des difficultés de la situation, c'est qu'il se trouve, dit le texte, dans un lieu désert. Alors, ce n'est pas le désert comme on peut l'entendre, mais ça veut simplement dire qu'ils sont loin de la civilisation, loin du village le plus proche. Et donc, la difficulté, c'est qu'il n'y a rien à proximité pour aller s'approvisionner. Et puis, difficulté supplémentaire, dit Marc dans le texte parallèle, certains d'entre eux sont venus de loin. Et Jésus s'inquiète, c'est dans notre texte, Jésus s'inquiète que certains d'eux, en rentrant parce qu'ils sont à jeun, ne défaillent en chemin. C'est le verset 32. « Je ne veux pas les renvoyer à jeun, dit Jésus, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Jésus est rempli de compassion pour cette foule. Et le verbe qui est utilisé ici, c'est un verbe qui est dérivé d'un mot qui signifie au sens propre les entrailles, les tripes. Vous savez que c'est ce qui représentait le siège des émotions et des sentiments pour les Hébreux. D'ailleurs, on dit souvent être saisi aux tripes, être saisi aux entrailles quand quelque chose nous touche profondément. Jésus est saisi aux entrailles. Quand il regarde cette foule qui est là avec lui depuis 3 jours et qui maintenant a faim, il a de la compassion pour elle, il a de la tendresse, de l'affection pour cette foule. Il voit leurs besoins et ça le touche au plus profond de lui-même. Il est touché, bouleversé et il veut faire quelque chose pour cette foule. Et c'est pour ça que Jésus va tout simplement accomplir un nouveau miracle pour nourrir cette foule. Mais pour le faire, il veut impliquer ses disciples. Des disciples, il faut le reconnaître, qui ne semblent pas avoir intégré les perspectives nouvelles qui ont été ouvertes par la première multiplication des pains. Puisqu'ils disent au verset 33, « Où trouverions-nous dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» La perspective d'une nouvelle multiplication des pains ne semble même pas leur traverser l'esprit. Alors bien sûr, c'est facile pour nous de les prendre un petit peu de haut et de se dire qu'ils n'ont vraiment rien compris. Se dire, mais quand même, ils devraient se souvenir de ce que Jésus a fait quelques jours auparavant. Ont-ils la mémoire si courte? C'est possible, ça? Pourquoi ne pensent-ils pas à cette possibilité que Jésus accomplisse un autre miracle pour les nourrir? Alors, nous qui connaissons toute l'histoire, on trouve ça normal, bien évidemment. À l'évidence, ce n'était pas si évident que ça pour les disciples. Pourquoi ? Sans doute parce qu'ils n'en sont qu'au début de leur compréhension de qui est Jésus, de son œuvre, de ce qu'il peut faire. Ça, c'est une évidence. Et peut-être aussi, peut-être, certains commentateurs le suggèrent, parce que cette foule est païenne. Cette foule est païenne, et pour les disciples, l'idée que les bénédictions pour Israël puissent être aussi pour les païens, c'est une idée qui est tout sauf évidente. Une idée qui va mettre beaucoup de temps à faire son chemin dans la tête des disciples et puis dans la tête des apôtres ensuite. On en a quelques illustrations au début du livre des Actes. Quoi qu'il en soit, les disciples sont devant une situation qui les dépasse complètement. Ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est qu'ils possèdent ce qu'il faut pour y répondre. Mais ils ne le savent pas encore. Et la question de Jésus, notre question du jour, va les aider à cheminer dans ce sens et va les aider à comprendre cela. Que possèdent-ils ? Ils possèdent 7 pains et quelques petits poissons, dit le texte. Répondent-ils à la question de Jésus, « Combien de pains possédez-vous ? » 7 pains et quelques petits poissons pour nourrir une foule de 4 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. C'est-à-dire presque rien. On pourrait même dire rien. Rien en comparaison des besoins. En tout cas, il n'y a pas là de quoi s'enthousiasmer pour les disciples. Et certainement pas là, à vue humaine, de quoi nourrir une foule. Et pourtant, cette quantité insignifiante dans les mains des disciples va devenir suffisante dans les mains du Seigneur. Et à partir de là, tout s'enchaîne, un petit peu comme lors de la première multiplication des pains. Je passe sur les détails et la foule est nourrie et nous lisons à la fin que tous mangèrent et furent rassasiés et qu'ensuite on emporta même 7 corbeilles pleines des morceaux de pain qui restaient. J'aimerais maintenant, pour terminer, c'est en tout cas le dernier point, avec 4 sous-points dans ce point, dans ce troisième et dernier point, j'aimerais vous proposer quelques pistes de réflexion sur le service chrétien, sur notre service, notre engagement pour le Seigneur, à partir de ce texte archi-connu de cette multiplication des pains. C'est donc notre troisième et dernier point, piste pour mieux servir. Et la première chose que j'aimerais relever consiste à nous rappeler que Dieu désire nous associer à son œuvre. Dieu désire nous associer à son œuvre. Est-ce que vous en êtes convaincus ? C'est bien sûr une évidence. C'est une évidence qu'il pourrait tout faire, je dis bien tout, sans nous utiliser, en se passant de nous. Il n'a pas fondamentalement besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pour accomplir sa volonté. Il choisit de le faire, mais il n'en a pas besoin fondamentalement. Mais nous voyons clairement dans les Écritures que Dieu choisit de se servir de nous, de son peuple, de ses enfants, pour accomplir son plan. Et l'apôtre Paul aux Corinthiens, un peu plus tard, dira que nous sommes ouvriers, collaborateurs avec Dieu. 1 Corinthiens 3:9. Dans notre passage, nous lisons au verset 32 que Jésus appela ses disciples, puis il leur posa notre question : « Combien de pains avez-vous ? » Jésus n'avait pas besoin d'eux pour accomplir ce miracle. Il n'avait pas besoin d'eux pour faire quoi que ce soit. Il n'avait fondamentalement pas besoin de ces 7 pains et de ces quelques petits poissons pour nourrir la foule. Et pourtant, c'est bien leur maigre ressource. C'est bien leur maigre ressource qu'il va utiliser. Et pourtant, c'est bien ses disciples dont Jésus va se servir. Alors oui, c'est notre premier point. Pour servir le Seigneur, pour mieux le servir, je dois prendre conscience que Dieu désire se servir de moi, alors même qu'il pourrait se passer de moi. Deuxième chose que j'aimerais dire ici, que j'aimerais souligner dans ces pistes de réflexion pour mieux servir, c'est qu'il nous faut ensuite ou aussi prendre conscience que nous ne sommes jamais suffisants par nous-mêmes, je dis bien par nous-mêmes, pour servir Dieu. C'est une évidence dans notre texte. Clairement, nous l'avons dit, les disciples sont dépassés par l'ampleur de la tâche, des besoins qui sont devant eux, et ils sont loin, très très loin de faire l'affaire et d'avoir de quoi répondre à la demande par eux-mêmes. Devant eux, il y a une foule de 4000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Mais qui pourrait nourrir cette foule ? Qui pourrait répondre à ce besoin ? Qui pourrait être suffisant pour ces choses ? Et leur question au verset 33 traduit tout leur désarroi, traduit toute leur incapacité à répondre aux besoins qui se trouvent là et que le Seigneur leur présente. Où trouverions-nous dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Oui, ils sont complètement dépassés par l'ampleur de la tâche. Et en particulier, ils sont dépassés parce que ce qu'ils possèdent est en réalité dérisoire. Dérisoire. 7 pains et quelques petits poissons. Bien sûr, nos capacités aux uns et aux autres ne sont pas toutes égales devant Dieu, et on pourrait dire qu'il arrive que certains aient plus de pain que d'autres, si on veut rester dans la même image, plus de poissons à donner que d'autres. Il arrive que certains aient des talents, des dons, des moyens, du temps que d'autres n'ont pas, bien évidemment. Mais peu importe en réalité. Peu importe, parce que ce n'est pas là la véritable question. La question n'est pas de savoir si j'ai 7, 10, 50, 100 ou 700 pains, parce qu'au final ça ne changera rien. Parce que quelles que soient mes capacités, qu'elles soient petites ou grandes, que j'ai 7 ou 700 pains, elles seront toujours insuffisantes pour accomplir la volonté de Dieu par moi-même, par moi-même, pour accomplir la volonté de Dieu avec mes propres forces et avec mes propres capacités. Alors oui, c'est notre deuxième point, pour servir le Seigneur, pour mieux le servir, je dois prendre conscience que je ne serai jamais suffisant par moi-même, quel que soit le nombre de mes pains. Je ne serai jamais suffisant par moi-même pour servir le Seigneur et pour accomplir sa volonté. Hop. Troisième chose que j'aimerais souligner dans ces pistes de réflexion pour mieux servir, c'est qu'il nous faut ensuite et aussi prendre conscience que Dieu nous appelle à lui donner, à lui apporter le peu que nous avons. Dieu nous appelle à le servir avec le peu que nous avons. Même si c'est objectivement peu, Dieu m'appelle à le lui apporter. Et finalement, la vraie question qu'il faut se poser ici n'est pas combien est-ce que j'ai de pain pour servir le Seigneur, ou combien est-ce que j'ai de poissons pour servir le Seigneur. La véritable question est celle-ci: est-ce que je suis prêt à donner ce que j'ai? Est-ce que je suis prêt à me donner tel que je suis? Est-ce que je suis prêt à servir le Seigneur avec mes 7, 10, 15, 50, 100, 700 poissons, peu importe. Enfin, pain ou poisson. Et nous constatons que Jésus, dans notre texte, n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas demandé autre chose à ses disciples que ce qu'ils avaient. Alors, bien sûr, c'était peu. C'était très peu. Mais comme nous le verrons en détail dans le dernier point, ce très peu était largement suffisant dans les mains du Seigneur. Alors un des écueils qui nous guette ici sans doute est celui de parfois nous laisser arrêter sur notre chemin de service, dans notre élan de service, parce que nous nous comparons aux autres. Nous nous comparons aux autres. Et quand nous le faisons, alors nous trouvons toujours quelqu'un qui a plus, qui a mieux que ce que j'ai. Et parfois, cette comparaison peut nous arrêter, parce que nous finissons par penser qu'à moins d'avoir ce que l'autre possède, je ne pourrai pas servir le Seigneur, à moins d'avoir au moins aussi bien à proposer. En fait, se comparer aux autres et penser qu'il faut avoir ce qu'ils ont pour servir revient à penser que ce que l'autre ou les autres ont est suffisant. Eux, ce qu'ils ont est suffisant. Moi, pas, mais eux, oui. Or, nous l'avons dit, quoi que nous ayons, que ce soit 7 ou 700, ça ne change rien. Quoi que nous ayons, ce sera toujours insignifiant pour accomplir l'œuvre de Dieu par nous-mêmes. Alors oui, nous pouvons redire avec ce troisième point que pour servir le Seigneur, pour mieux le servir, je dois prendre conscience que Dieu m'appelle à lui donner le peu que j'ai et à le servir tel que je suis. Et nous arrivons donc à notre dernier sous-point: le peu que nous avons est toujours suffisant dans les mains de Dieu. Pourquoi ? Parce que le peu que j'ai, Dieu peut en faire beaucoup. Tout simplement, il a la capacité de multiplier tout ça. C'est notre quatrième et dernière piste dont il faut absolument prendre conscience si nous voulons servir le Seigneur avec efficacité. En fait, rien n'est jamais trop peu dans les mains du Seigneur. Peu dans mes mains, c'est beaucoup dans les mains du Seigneur. Peu, c'est beaucoup si Dieu est dans le coup. Mes chers amis, il y a une idée ici à laquelle il faut absolument tordre le cou. C'est celle qui consiste à penser, parfois à dire, parfois à croire, que nous devons être exceptionnels pour servir le Seigneur, que nous devons avoir des compétences hors normes si nous voulons vraiment servir le Seigneur et être utiles dans ses mains. Mes amis, nous devons bannir cette idée de notre pensée parce qu'elle est fausse. Elle est entièrement fausse. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de l'ignorance ou de l'incompétence ou de la médiocrité, bien évidemment pas. Je crois que nous devons toujours chercher à donner le meilleur de nous-mêmes avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. Mais la réalité, c'est que Dieu se sert différemment, certainement, mais Dieu se sert autant, je dis bien différemment, mais autant de celui qui possède 7 pains que celui qui en possède 700. Dieu se sert différemment, mais aussi de monsieur ou madame tout le monde, comme il se sert de l'érudit. Dieu se sert différemment, mais aussi du manuel comme de l'intellectuel, et nous pourrions multiplier les exemples. Ce que nous devons absolument comprendre, c'est que ce que j'ai, qui ne sera jamais suffisant par lui-même, le sera toujours dans les mains de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce qui compte dans le service pour le Seigneur, ce n'est pas tant ce que j'ai, ce n'est pas tant ce que je suis, mais le fait que si je donne ce que j'ai au Seigneur, il s'en servira et il le multipliera. Et cette leçon, beaucoup l'ont apprise, bien évidemment. Et j'ai pensé comme une évidence, j'aurais pu prendre peut-être un exemple moins connu, mais c'est la leçon que David avait clairement apprise quand il est allé combattre le géant Goliath. On connaît tous l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous souvenons de David qui arrive sur le champ de bataille, qui se rend compte de la situation et puis qui se propose pour aller combattre Goliath. Mais il ne paye pas de mine, notre petit David. Ce n'est encore qu'un enfant. Ce n'est pas un guerrier. C'est un berger. Ce n'est pas un soldat. Il n'a pas appris l'art de la guerre, David. Il ne fera bien évidemment pas l'affaire, pensent tous ceux qui sont autour. Pourtant, Saül se laisse convaincre. Et puis, il y a cet épisode où David, on fait essayer à David l'armure de Saül, le casque de Saül, l'épée de Saül, tous les effets du roi, mais David ne peut même pas marcher. C'est plus lui-même, il n'est plus lui-même. Et finalement, nous le savons, il ira avec son bâton, avec sa fronde, avec sa gibecière et avec 5 petits cailloux. Imaginez une fronde et 5 cailloux pour combattre Goliath. C'était complètement insensé à vue humaine. Aucune chance de réussir. Il faut être un guerrier pour lutter contre Goliath. Et il faut avoir un petit peu plus en main que 5 petits cailloux. Mais en réalité, David possède ce qu'aucun autre guerrier d'Israël ne possédait à l'évidence à ce moment-là. David possédait une pleine confiance en Dieu, une pleine confiance que Dieu pouvait utiliser ses petits moyens et que ce qu'il avait dans les mains de Dieu serait suffisant. David savait que Dieu était avec lui et c'est ça qui a fait toute la différence. Le peu que David possédait, il l'a mis à la disposition de Dieu. Et nous savons la suite de l'histoire, et avec le peu de David, Dieu a fait de grandes choses. Voyez-vous, parfois pour servir Dieu, nous agissons un petit peu comme David dans ce texte, quand il essaye de s'affubler des affaires de Saül, alors nous nous affublons des habits d'un autre, de sa cuirasse, de son épée, de sa façon de faire, de sa façon de parler, de sa façon de paraître. Et nous pensons que nous allons ainsi être plus efficaces pour le Seigneur. Nous pensons que nous avons besoin d'avoir ce que les autres possèdent et que nous avons besoin de leur ressembler pour pouvoir servir le Seigneur. Mais nous l'avons déjà dit, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que le peu que j'ai est toujours suffisant dans les mains de Dieu. Bien évidemment, insuffisant dans mes mains, toute seule, mais suffisant dans les mains de Dieu. Et la question que nous devons nous poser est celle-ci, qui peut dire ce que Dieu peut faire avec le peu que j'ai, pour peu que je le lui donne, pour peu que je me mette véritablement à son service? Qui de nous peut dire l'impact d'une prière pour quelqu'un d'autre? Qui de nous peut dire l'impact d'un sourire par exemple. Pour ne donner que des exemples très, très anodins. Je vous avais raconté, alors il y a très très longtemps, à plus de 10 ans, l'histoire véridique, c'est un témoignage de cette dame qui traverse un jour le hall de la gare qu'elle traversait jour après jour et qui se fait arrêter par un homme âgé qu'elle ne connaît pas et qui lui dit de manière très très maladroite « Excusez-moi madame, mais je tenais absolument à vous remercier ». « Ah bon ?» dit la dame tout étonnée, mais me remercier de quoi ? On ne se connaît pas. Vous remercier de m'avoir conduit à la source du bonheur. » Et alors il lui raconte ce qui s'est passé, il lui dit « J'étais, alors c'est à l'époque où il y avait des receveurs dans les gares et on achetait des billets, etc. Donc j'étais le receveur de billets à la station X et chaque fois que vous passiez, vous m'adressiez un beau sourire accompagné d'un bonjour amical. Et vous n'avez pas idée, dit cette personne, de ce que ça produisait en moi, de ce que cette attention quotidienne a été pour moi. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, c'était toujours la même chose. Et je me disais en moi-même, mais comment cette dame peut-elle être toujours heureuse ? Comment cette dame peut-elle toujours sourire ? On ne peut quand même pas être toujours heureux. Et pourtant, vous en aviez l'air. Et je me suis rendu compte que ce sourire, il venait de l'intérieur, dit-il. Et un matin, je vous ai vu passer avec un livre à la main et j'ai compris que c'était une Bible. Et à ce moment-là, je me suis dit, et si ça venait de là ? Et si elle puisait son sourire dans ce livre ? Et le soir même, je suis rentré, j'ai acheté une Bible, je l'ai lue et j'ai trouvé Christ. Et maintenant, moi aussi, dit-il, je peux sourire. Petite histoire pour nous dire, pour appuyer sur cette réalité de ce dernier point, que Dieu peut faire de grandes choses avec nos petits moyens, même avec un simple sourire. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à servir le Seigneur avec ce que nous sommes, chacun et avec ce que nous avons. Nous encourager à ne pas attendre d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir autre chose pour commencer à servir. Parce que quand nous sommes dans cette attente-là, nous ne faisons finalement rien. Au final, au service du Seigneur, ce qui fait la différence, ce ne sont pas les grandes ou les petites choses que j'ai et que le Seigneur m'a données, ce ne sont pas les grandes ou les petites qualités de ma personne, mais c'est de me mettre au service du Seigneur avec ce que j'ai et avec ce que je suis. Parce que lui est grand et il peut faire de grandes choses avec mes petites. Combien de pain avez-vous ? Cette question de Jésus à ses disciples, elle est bien évidemment aussi pour nous ce matin, mais vous l'avez compris, ce n'est pas la question la plus importante. Parce que peu importe le nombre de pains, peu importe la réponse que nous apportons à cette question, l'important c'est que nous soyons convaincus que le peu que nous avons, le Seigneur le multipliera. Si nous le lui donnons. Amen.